France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre série de cette semaine est consacrée à Saint-Simon, celui du 19e siècle, penseur visionnaire à bien des égards. Aujourd'hui, la vitalité des Saint-Simoniennes. Saint-Simon, penseur de l'industrie naissante, de la production aussi bien manufacturière qu'intellectuelle et artistique. Saint-Simon qui louait les abeilles de la société, comme il disait, tandis que trop de non-productifs vivant de la rente et de leurs particules d'aristocrates étaient qualifiés de frelons profitant des ruches. Saint-Simon, le visionnaire, s'est éteint en 1825, il y a 200 ans. Il laissait derrière lui des Saint-Simoniens divisés, héritiers d'une œuvre interprétable à souhait, et parmi eux des femmes Saint-Simoniennes, alors même que Saint-Simon n'avait pas beaucoup parlé des femmes. Ces Saint-Simoniennes, elles se révèlent surtout à l'occasion des épisodes révolutionnaires de 1830 et des tumultes qu'ensuite la monarchie de Juillet n'arrive pas tout à fait à calmer. Il faut dire que l'un des principaux Saint-Simoniens de l'époque, Prosper Enfantin, qui fonde chez lui dans le quartier de Ménilmontant à Paris une communauté d'une trentaine de personnes pour tenter de vivre autrement, loin du mariage bourgeois et de l'amour ordonné, s'avère autoritaire et méprisant envers les femmes. Les femmes ne devraient-elles pas prendre en charge seules leur émancipation à l'aune de Saint-Simon ? En 1832, tandis que des Saint-Simoniens ont pris la direction du journal Le Globe, plusieurs Saint-Simoniennes fondent un journal de femmes intitulé « La femme libre ». Qui sont-elles ? Comment pensent-elles ces femmes de tous milieux qui seront nombreuses, 16 ans plus tard, à nourrir les rangs de la Révolution de 1848 ?
Suzanne s'avance dans la salle des concerts. Des dizaines de personnes sont debout ou assises. Toutes sont des femmes. Elles écoutent avec attention l'oratrice qui s'exprime à la tribune.
Car la femme ne veut plus être payée pour sa beauté, vendue pour sa dot, livrée par calcul. Elle veut être ensemble mère et citoyenne.
Oui.
Asseyez-vous ici, vous verrez mieux.
L'homme a été le seul maître de nos destinées.
Merci.
Associons nos efforts aux siens. Que chacune d'entre nous puisse enfin faire entendre sa voix.
Oui.
Qui est cette femme ? Voilà. Georges Sand ?
Georges Sand ?
La société...
Que viendrait faire ici ce dindon ?
Mettons-la sous
non.
ses pieds.
Non, elle c'est Jeanne de Roy. Elle est journaliste, comme moi, pour notre journal L'Opinion des Femmes.
Que les hommes ont vainement cherché.
Oui. Bravo ! Bravo ! C'est exactement ça !
En juin 1848, on compte 748 publications et 250 clubs politiques. Les femmes aussi s'organisent. Eugénie Niboyet, femme de lettres et saint-simonienne, fédère autour d'elle un groupe d'intellectuels dont Désirée Gay et Jeanne de Roy. En mars 1848, elles ont créé un club politique et un journal. Rapidement, elles réussissent un tour de force, faire l'unanimité contre elles.
Vous venez d'entendre dans cette fiction de Stéphanie Duncan, consacrée à la Révolution de 1848 et diffusée sur France Inter en 2017, tous ces noms de femmes saint-simoniennes, Eugénie Niboyet, Jeanne de Roy et d'autres. Sont-elles les premières féministes du 19e siècle ? Que cherchent-elles et que trouvent-elles dans la pensée de Saint-Simon ? Bonjour Michel Rios-Arcé.
Bonjour.
Historienne, professeure émérite des universités, vous étiez déjà avec nous dans le premier épisode de cette série consacrée à Saint-Simon, où j'ai cité plusieurs de vos travaux. Je rappelle ce matin que vous avez publié chez Albin Michel une étude sur les Saint-Simoniennes Désirée Véret, Jeanne de Roy et Eugénie Niboyet, ainsi qu'une autre étude aux éditions Côté Femmes sur les courriers de femmes envoyés au journal saint-simonien Le Globe en 1831 et 1832. Bonjour Paola Ferruta.
Bonjour.
Chercheuse associée à un laboratoire de l'Université Paris-Sorbonne, vous avez publié un ouvrage en allemand sur les Saint-Simoniens et la construction du féminin entre 1829 et 1845. Et bonjour Sophie Delvalet.
Bonjour.
Vous êtes à distance mais bien avec nous, merci. Vous êtes en train d'achever une thèse de doctorat sur les Saint-Simoniennes et leur filiation, peut-être, dans le féminisme actuel. Michel Rios-Arcé, que se passe-t-il historiquement d'abord dans les années 1820-1830, pour que soudain le mouvement féministe, naissance, ce mot n'existe pas encore, vous nous en donnerez l'origine, se soulève de manière assez impressionnante, s'abreuve chez Saint-Simon. Il est vrai qu'en 1816, Louis de Bonald, sous la Restauration, a réinstauré, c'est le cas de le dire, le divorce, a annulé le divorce, l'a aboli. Il y a beaucoup de problèmes historiques. Est-ce que vous pouvez nous camper l'atmosphère sociale des années, fin des années 1820?
Alors, ces années, comme nous l'avons vu hier, sont absolument décisives parce que nous sommes dans une période de transition après une révolution bouleversante. L'épisode, si je puis dire, Napoléon Ier, 1815, c'est terminé. La Restauration, une Restauration que les contemporains trouvent inadmissible dans la mesure où on replace sur le trône les frères du roi. Tant et si bien que advient, comme il se doit, la Révolution de 1830. Et la Révolution de 1830, elle a ça de particulier, c'est qu'il y a la tradition révolutionnaire française, donc avec les artisans, mais aussi un nouveau monde qui émerge, les prolétaires. Et ces prolétaires, on ne les connaît pas vraiment. Et ils sont présents, le mot est d'époque, hein, et prolétaire, ça signifie tout simplement être juste capable de se reproduire. C'est extrêmement méprisant. Lamartine disait ce vilain mot qu'il importe de mettre de côté et supprimer. Et cette révolution de 1830, elle est faite par le peuple, de fait. Alors on a dit beaucoup que c'est les bourgeois qui avaient mobilisé en quelque sorte leurs ouvriers pour faire en sorte que la charte soit maintenue. Sauf que 1830 a été interprété de manière différente directement par ceux qui voulaient à nouveau restaurer l'ordre. Et ils ont expliqué que, tout simplement, dans la mesure où Charles X n'avait pas respecté la charte, il s'agissait d'un coup d'État. Ils ont nié le fait de la Révolution. Et à partir de là, on a l'impression que tout se déclenche. 1830, Louis-Philippe, la branche latérale, vient au pouvoir. La population trouve que c'est un tout petit peu étrange, puisqu'ils estimaient que le peuple devait être récompensé. On devait achever la Révolution. Alors, 1830, c'est immédiatement suivi de la révolte des Canuts en 1831, ensuite 1832, 1834. Il y a comme une succession d'insurrections, comme s'il y avait une insatisfaction. Et de fait, le pouvoir de Louis-Philippe ne tient pas. Donc, entre 1830-1834, avant que le pouvoir se stabilise, il y a justement un moment d'exception. Jamais on retrouvera ce moment d'exception. Maurice Agulon, qui est un des grands historiens de la période, l'avait signalé. Et où la liberté est pensée possible.
Est-ce que vous diriez que c'est encore la même chose à l'aube de la Révolution de 1848, c'est-à-dire les années 1840 ne font que prolonger ce moment? Par exemple, on accueille beaucoup de réfugiés allemands. Marx habite rue Vanneau. Flora Tristan habite au 89 rue du Bac. Alors ça nous fait un peu bizarre, parce qu'aujourd'hui ce sont des quartiers très chics à Paris. Il y a tout un monde là, de gens qui se rencontrent et qui sont révolutionnaires. Il y a des femmes engagées, comme Flora Tristan.
Les premières engagées, c'est donc 1831, vous l'avez signalé, avec la femme libre. Et ça perdure, c'est-à-dire que ça s'accentue avec la crise économique. Et naît à ce moment-là un mouvement étonnant, dans les années 40. La Fraternité en 1835, et l'Encyclopédie avec Pierre Leroux, tous ces textes qui anticipent sur 1848, va naître ce mouvement qu'on appelle socialisme. Mais il n'y a pas tellement de différence entre socialisme et communisme. Et tout ça prend racine, peut-être pas dans Saint-Simon directement, mais dans le saint-simonisme, avec l'exposition de la doctrine. C'est-à-dire que tout ce monde, que ce soit les prolétaires ou les femmes, lisent et apprennent, je dirais presque, la nouvelle société à venir, l'achèvement de la Révolution, avec l'exposition de la doctrine.
Paola Ferruta, vous êtes italienne. Hier aussi, nous avons eu une chercheuse italienne sur Saint-Simon. Donc je m'interroge sur l'importance de Saint-Simon aujourd'hui dans les milieux de la recherche en Italie. Et puis j'aimerais savoir, notamment, mais cette question se pose aussi pour les Français et Françaises qui travaillent sur Saint-Simon et les Saint-Simoniens et Saint-Simoniennes, j'aimerais savoir si c'est la question des femmes, si c'est la question des prolétaires qui vous a mené à travailler sur les Saint-Simoniens et les femmes, ou bien si c'est une curiosité pour Saint-Simon et le milieu des gens qui lisent Saint-Simon. Quelle est l'accroche pour vous en recherche? Et encore une fois, pourquoi en Italie, semble-t-il, y a-t-il cette veine très vive que je trouve, pour ma part, réjouissante?
Sûrement, il y a l'aspect linguistique. Je veux dire, c'est une approche privilégiée pour les Italiens, lire les manuscrits en français, même si c'est du français de 1830, et donc un langage très différent, amener les Italiens à lire et à connaître le saint-simonisme. Et puis, il y a une tradition socialiste aussi, proche du syndicalisme italienne, qui est plus proche de la tradition française, je dirais. Donc voilà, c'était le premier intérêt, si on pense aux travaux du professeur Pitocco à Rome des années 1980. Donc oui, il y a cet aspect-là. Mais moi, je pense que il y a aussi le féminisme qui était, il y a eu des chercheuses à Trieste, même à Rome, qui ont travaillé sur le féminisme saint-simonien. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un aspect privilégié du saint-simonisme qui a intéressé les Italiens. Mais personnellement, je pense que oui, aussi la langue a joué un rôle important. Je pouvais lire les manuscrits en français au début, vraiment avec une certaine difficulté, mais en allemand aussi. Et donc j'ai trouvé ma voie à travers la langue. Et donc et j'avais aussi un intérêt pour les femmes, pour la parole des femmes. Donc c'est ça le premier aspect que m'a vraiment fascinée. Et puis les Lumières. Approfondir que ce mouvement d'idées, que c'était pas seulement un mouvement d'idées, mais c'était aussi un mouvement social, on pourrait dire. Et donc, approfondir l'importance des Lumières en France, en Italie, en Allemagne aussi, des Lumières juives, de la Scala. Et donc, réunir tout ça.
Alors, la Scala, ça veut dire l'éducation, c'est un mot hébreu.
Oui.
Donc je vais tout de suite expliquer les enjeux. Enfin, c'est vous qui allez les expliquer, mais je voulais préciser aux auditeurs. Vous travaillez sur des formes de minorité, est-ce qu'on peut dire comme ça, au XIXe siècle, qui, dans des pays comme l'Allemagne, et en l'occurrence les Juifs, en particulier à Elvarnagen, alors c'est compliqué, c'est pas vraiment une minorité, je veux dire, elle est très assimilée, mais c'est celle qui intéressait beaucoup Hannah Arendt. On en a parlé il y a très peu de temps dans une série sur la marginalité avec une émission sur les parias, selon Arendt. Donc les problèmes d'assimilation des Juifs en Allemagne vous intéressent, les problèmes des femmes en France à la même période aussi. Des traits d'union sont possibles et aisés entre toutes ces situations?
Oui, il faut vraiment lire, donner la parole aux femmes, lire les journaux. Il y a toujours des nouveaux manuscrits qui apparaissent aux archives, qu'on peut lire pour comprendre ce que ces femmes ont pensé. Le trait d'union est possible, je pense. Il y a des sources communes. Il y a des penseurs comme Lawrence, par exemple, en Angleterre, qui ont été les sources, soit de Raël Van Hagen que de Claire Desmar. Et donc, c'est ça que l'idée de l'émancipation féminine, cette idée de c'est pour parler avec Claire Desmar, l'épreuve de la matière par la matière, l'essai de la chair par la chair, donc de femmes qui sont conscientes, non, de leur sensualité, de leur liberté de parole et de mouvement.
Vous pouvez nous dire un mot sur Claire Desmarre ? Qui était-elle ? De quel milieu venait-elle ?
Claire Desmarre est une figure mystérieuse. C'est vrai qu'on connaît, il y a des hypothèses qui ont été élaborées en Allemagne. On pense qu'elle était d'origine allemande, que sa famille était une famille de musiciens allemands, mais cela n'est pas sûr. On n'a pas vraiment retrouvé ses documents et on ne sait même pas exactement où elle est née. On connaît un peu son histoire par rapport aux autres Saint-Simoniens qui ont recueilli ses écrits et les ont publiés après sa mort. On connaît l'épisode tragique de son suicide en août 1833. Et ses revendications, ses idées, son écrit « Ma loi d'avenir », qui est paru en 1834, édité par Suzanne Volkin, qui la connaissait bien. Et je pense que c'est l'écrit féminin le plus adapte à proclamer la réhabilitation de la matière, la sanctification de la chair. Donc c'est vraiment une vision particulière du principe matériel.
Et c'est du saint-simonisme.
Oui, absolument, c'est le cœur du saint-simonisme.
Entendu, merci. Et puis oui. On va la situer par rapport à d'autres femmes. Alors j'en viens à vous qui êtes en pleine thèse, en fin de thèse, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas, Sophie Delvalle.
Oui.
Donc vous êtes une toute jeune chercheuse de ce point de vue, puisque vous êtes entrée en thèse de doctorat il y a peu de temps. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à travailler sur les Saint-Simoniennes ? Est-ce que c'est une curiosité pour Saint-Simon et l'œuvre ? Est-ce que c'est une curiosité historique pour un milieu social, pour la question des femmes ? Ou la question des prolétaires, la question des révolutions ? Quel est votre angle d'approche ?
Alors, j'ai d'abord été très frappée par la phrase de Fourier qui lie les progrès de la société à l'émancipation des femmes. Et de ce fait, de manière plus large, j'ai été amenée à m'intéresser au parcours de femmes saint-simoniennes, parce que leur parcours paraissent exceptionnels au XIXe siècle au regard des contraintes qui pèsent sur la parole publique des femmes. Et j'ai découvert avec beaucoup d'étonnement la modernité de leurs propos. Et c'est ainsi que je me suis intéressée à la question des femmes. Et le mouvement m'intéressait particulièrement puisqu'il peut être considéré comme le premier mouvement autonome et collectif des femmes, même s'il n'a pas été reconnu comme tel dans l'histoire.
Et pour vous, est-ce que l'enjeu est aussi de faire une galerie de portraits ? C'est-à-dire, qui sont ces femmes saint-simoniennes ? Il y a quand même des milieux très différents. Il y a des ouvrières, il y a des lingères, il y a des couturières, mais il y a aussi des femmes de bourgeois. Il y a... Alors, est-ce que ces enjeux-là de trajectoire et de situation sociale sont au cœur de votre thèse ? Ou non ?
Oui, alors je me suis initialement intéressée aux femmes qui ont fait partie de la famille saint-simonienne, c'est-à-dire celles qui ont été intégrées dans la hiérarchie de l'Église saint-simonienne. Initialement, c'était souvent des femmes lettrées, plutôt cultivées. Certaines ont lu les philosophes des Lumières. Et ces femmes ont été chargées de recruter de nouvelles femmes par le biais de correspondances qu'elles entretenaient. Et puis, après la révolution de 1830, comme il y a eu un afflux massif de femmes au sein du mouvement saint-simonien qui était particulièrement intéressé par les questions de l'émancipation des femmes et du peuple, et également autour de la devise de saint-simonienne qui est l'amélioration du sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, je me suis aussi intéressée au parcours des femmes prolétaires, puisque ce sont elles qui fondent le premier journal La Femme Libre, comme vous l'aviez évoqué. Et de ce fait, leur itinéraire m'a semblé encore plus exceptionnel au regard des difficultés d'expression publique des femmes à l'époque.
Donc, la fondatrice de la Femme Libre. La Femme Libre, cette revue ou ce journal de 1832. Oui. En effet, il y a Désirée Véret, couturière de 22 ans, la directrice du journal, Marie-Reine Guindorf, si je ne me trompe pas, c'est ça? 20 ans, a été initiée au Saint-Simonisme par Eugénie Niboyer, qui elle-même est lingère. Il y a une ouvrière brodeuse, Suzanne Voilquin. Comment ces femmes sont-elles arrivées là? Est-ce que c'est quelque chose, le Saint-Simonisme, qui attirait des milieux ouvriers très tôt? Saint-Simon est mort en 1825, c'est très proche. Comment se fait-il que des femmes de milieux a priori très loin d'un monsieur qui écrit des pages et des pages face à l'école polytechnique ou rue de l'Ancienne Comédie, c'était ça Saint-Simon, comment se fait-il qu'elles arrivent si nombreuses malgré tout dans le giron du saint-simonisme?
Oui, alors les saint-simoniens vont avoir la volonté de diffuser leurs idées à grande échelle et de ce fait vont multiplier des techniques de propagande, notamment par le biais de la presse ou par le biais de prédications publiques. Et elles vont, après la Révolution 1830, assister à ces prédications, éventuellement aussi correspondre avec le journal Le Globe, mais c'est surtout l'appel à la Femme Libre d'Enfantin en novembre 1831 qui va avoir une grande résonance dans la société. Le père Enfantin propose une nouvelle morale susceptible de transformer la société et il fait appel à l'avènement d'une femme nouvelle qu'il appelle à se révéler, à une transformation des rapports entre les sexes. Il va notamment, comme l'a évoqué Paola Ferruta, faire un appel à l'amour libre, à la réhabilitation de la chair et quelque part remettre en cause le modèle de la famille traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, des femmes vont vouloir incarner ce renouveau social et spirituel et croire en la possibilité d'une femme nouvelle, libérée des entraves et des tutelles. Et elles vont justement vouloir définir cette liberté des femmes, à la fois la liberté individuelle, mais la liberté collective. Et à partir de là, elles vont énoncer une forme de d'émancipation des femmes par elles-mêmes. Je pense notamment à Adèle de Saint-Amand, par exemple, qui dira « Les femmes ne devront qu'à elles-mêmes leur émancipation définitive. »
Michel Rio-Sarcé, vous allez vous aussi nous raconter ce milieu, parce que c'est vraiment un milieu social qui va aussi être important dans le domaine de la presse. Mais quand même, qu'est-ce que toutes ces femmes sont allées chercher et trouver chez Saint-Simon? Simon était-il vraiment un penseur du féminin?
Saint-Simon lui-même, non. Mais les Saint-Simoniens, ça Philippe Régnier l'a montré, ont eu un rôle complètement novateur dans ce sens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence dans le public, lors des enseignements des Saint-Simoniens, entre hommes et femmes. Et alors, vous ajoutez à cela qu'il y a une volonté de savoir, d'apprendre à lire aux femmes, extrêmement importante dans les années 20. Ça, Christine Planté l'a très bien montré dans ses travaux. C'est-à-dire qu'une volonté d'intervenir dans la société en tant que, pas tout à fait future citoyenne, mais elles savent que pour être présentes dans l'espace public, il faut d'abord accéder à l'instruction. Condorcet l'avait parfaitement explicité pendant la Révolution et notamment lorsqu'il écrit « Le droit de cité pour les femmes », il va très très loin, Condorcet. Mais ceci, on semble l'avoir oublié avec l'épisode napoléonien, avec la Restauration, avec le retour de l'ordre, avec le retour de la hiérarchie. Et les Saint-Simoniens, eux, prennent, je dirais presque, la situation en l'état. Et la situation en l'état est gravissime pour les églises. Il y a en 31 une manifestation du peuple contre les églises qui tentent de revenir en force, alors que tout le monde a déclaré la faillite des églises, en particulier catholiques et protestants. Et du même coup, cette dimension-là, ils saisissent, comme Saint-Simon avait saisi la crise à cette époque-là, eux saisissent la nécessité de renouveler l'église. Et du même coup, ils intègrent les femmes dans l'église, aussi bien, comme l'a dit très bien Sophie, dans la hiérarchie, et dans l'enseignement. Et parmi elles, il y a Eugénie Boyer, qui n'est pas une ouvrière, elle.
Elle est lingère, c'est ça? C'est De Rouen. Excusez-moi.
Jeanne De Rouen était lingère, elle est devenue institutrice, grâce à, à l'aide d'un prêtre, d'ailleurs. Et Désiré Béret est effectivement couturière ou travailleuse de l'église, travailleuse de l'église, de l'aiguille, comme on le disait à l'époque.
Donc, comme et celle que vous évoquiez, que je vous ai coupée, pardonnez-moi, qui n'était pas ouvrière, disiez-vous.
Alors, c'est Eugénie Boyer. Oui. Elle, elle est descendante d'une famille protestante. Elle est écrivaine. Elle traduit des livres d'anglais à français. Elle est en français. Elle est particulièrement reconnue dans son domaine à cette époque-là. Et elle passe, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, hein, du saint-simonisme au fouriérisme. Il n'y a pas de, comme Désiré Véret, passer du saint-simonisme au fouriérisme. Parce qu'ils estiment, les unes et les autres, Sophie l'a redit, en 1808, Fourier explique qu'on ne juge les civilisations qu'à l'aune de l'affranchissement des femmes. Ces dimensions-là, les femmes reviennent là-dessus. Elles ont lu Fourier, elles ont lu Saint-Simon. Plus exactement, elles ont lu Saint-Simon à travers l'exposition de la doctrine. Et la stratégie, la politique des Saint-Simoniens, qui étaient quand même de jeunes polytechniciens extrêmement doués, saisissent cette dimension-là. Et la réhabilitation de la chair, c'est à la fois un objet pour utiliser les femmes d'une certaine manière, mais contrairement à ce qu'ils avaient imaginé, les femmes s'en sont servies. Et vous avez fait allusion à Claire Desmarres, qui est une grande dame. Mais les écrits, ma loi d'avenir...
Qu'est-ce que vous voulez dire, une grande dame?
Une grande dame en tant qu'écrivain. Ah. Elle décide, je dirais presque librement, de se suicider, après avoir écrit délibérément une parole, dit-elle, souverainement révoltante. Mmh. C'est-à-dire que la réhabilitation de la chair que l'Église va utiliser plus tard, c'est pas simplement la chair au sens physique du terme, c'est faire en sorte que les femmes prennent toute leur place dans la société. Et vous avez raison, Paola, Claire Desmarres, on ne sait pas très bien qui elle est, sauf que les deux textes qui ont été publiés par Suzanne Voilquin ont était particulièrement lu à cette époque-là et plus tard, puisque y compris Benjamin va lire Claire Desmarres. Et avec ce que ça implique comme relais, toujours discontinu. Et ce texte est absolument remarquable. Et
si je comprends bien,
il faut le lire.
Justement, je voulais lire une phrase. Apparemment, la question du désir sexuel dans les relations amoureuses qu'elle a la fait réfléchir. On trouve dans sa correspondance avec Aglaé Saint-Hilaire, depuis que je suis ici, écrit-elle, par exemple, j'ai eu des rages de désir à me rouler dans mon lit en criant. C'est vrai que pour la question des femmes, les femmes, la simplicité du rapport à la sexualité. Claire Desmarres est stupéfiante. Hein.
Elle est stupéfiante de ce point de vue-là, mais en même temps, elle lie cette question à la révolution. Les révolutions ne se passent pas sur les barricades, écrit-elle, se passent dans l'encoignure, justement, des chambres, avec ce que ça implique comme connaissance parfaite de ce qu'est l'être humain, à la fois soi-même, c'est-à-dire sa propre personne, ce qu'on redécouvre aujourd'hui avec le mouvement MeToo et les colleuses, c'est-à-dire le respect de soi, mais en même temps la connaissance de son corps et la société, c'est-à-dire ce corps, c'est aussi l'être, le cerveau dans la société. Et Claire Desmarres regroupe tout ça, mais pas simplement Claire Desmarres, la presque totalité des femmes qui ont rédigé La Femme Libre, qui s'est appelée La Femme Nouvelle, Sophie...
Le journal de 1832.
De 1832. On va retrouver les mêmes femmes en 1848. Elles ont une présence sociale extraordinairement forte. On l'a oublié parce qu'ensuite l'ordre va être reconstitué avec le Second Empire. Mais il n'empêche qu'avec la famille saint-simonienne, aussi caricaturale apparaît-elle comme une secte, elle va perdurer puisque les saint-simoniens vont être présents un petit peu partout et en particulier cheville ouvrière de la révolution industrielle, cheville ouvrière de la construction des chemins de fer, cheville ouvrière de la mise en place des banques avec les Pereire en particulier. Mais la famille va perdurer, la solidarité entre eux, va être présente, y compris avec les femmes, puisque certaines vont soutenir, par exemple, la première bachelière avec Arlès Dufour, Julie Daubier, oui, qui va passer le bac. Vous comprenez que tout ceci va se retrouver dans le 19e siècle, et c'est la raison pour laquelle, justement, les Saint-Simoniennes vont être considérées comme l'avant-courrière, l'origine, la source du mouvement féministe.
Sophie Delvalet, est-ce qu'on pourrait revenir sur l'épisode de la communauté de Ménilmontant, dont j'ai parlé dès les premières minutes de cette émission? Prosper Enfantin, qui est un des disciples de Saint-Simon, qui va se fâcher avec plein d'autres. Enfantin, après la révolution de 1830, il crée une communauté chez lui, dans le quartier de Ménilmontant, et ça se passe pas très bien, notamment avec les femmes. Il est pour la liberté sexuelle complète, si j'ai bien compris. Elle, oui, pourrait s'y retrouver, normalement. Dans ce que vous venez de dire, Michel Rio-Sarcé, le souci d'avoir un rapport au corps, justement, plus libre et plus simple, mais elle ne s'y retrouve pas du tout. J'aimerais quelques explications à ce sujet, Sophie Delvalet, s'il vous plaît.
Oui, alors, les Saint-Simoniens, suite à l'appel à la femme libre, Enfantin va décider d'exclure les femmes de la hiérarchie de l'Église saint-simonienne. Mais ce n'est pas exempt d'un certain nombre d'enjeux de pouvoir et de domination, puisque Enfantin, symboliquement, quand il va faire un appel à la femme, va laisser un fauteuil vide à côté de lui et, en gros, prendre la tête du mouvement en étant seul à continuer à diriger la famille saint-simonienne. Et puis, quand les saint-simoniens vont être accusés par les autorités de porter atteinte à la morale publique, il va décider ensuite d'une séparation, c'est-à-dire que les hommes du mouvement vont quelque part décider de faire vœu de célibat et de se retirer, de faire une retraite dans la communauté de Ménilmontant.
Et que se passe-t-il, oui, là-bas pour les femmes?
Alors, le fait que les femmes soient obligées de se réorganiser seules, eh bien, ça va permettre un très grand regain d'activité auprès des femmes qui vont faire des appels à la solidarité et à l'association des femmes entre elles, et qui vont, à ce moment-là, notamment aussi, eh bien, fonder le journal La Femme Libre, par exemple, multiplier les types d'écrits. Par exemple, Cécile Fournel et Marie Talon publieront à ce moment-là le livre des actes, où elles interrogent aussi le statut des femmes. Et donc, ça va donner lieu à un grand nombre de discussions et d'échanges entre femmes. Et c'est cette solidarité particulière qu'il y aura entre elles qui va permettre quelque part à ce mouvement autonome d'émerger à ce moment-là.
Mais peut-être ai-je mal compris, à Ménilmontant, Enfantin n'a pas accepté de femme. Forcément, on est un peu induit en erreur, puisqu'on lit partout que c'était un hymne à la liberté sexuelle, etc. Sauf qu'il n'y avait pas de femmes, c'est ça? Ou bien elles étaient, oui, dominées, ou j'ai pas très bien compris comment on peut prôner et montrer la liberté sexuelle, en l'occurrence hétérosexuelle, qui quand même était ce qu'il avait en tête, je crois, le plus directement, dans une communauté de 30 personnes où il n'y a pas une femme. Vous pouvez m'expliquer? Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Pour qu'il aille en prison? Parce que c'est ça que je veux dire. Il est quand même accusé ensuite d'outrage aux bonnes mœurs. Donc, j'ai pas rêvé. Il y a quand même un enjeu autour du comportement sexuel. Qu'est-ce qui se passe à Ménilmontant?
Oui, alors, effectivement, peu de temps après l'appel à la femme, avant même que les hommes décident de cette retraite à Ménilmontant, au sein du groupe, les questions autour de l'amour libre divisent les individus. Toutes les femmes ne sont pas d'accord avec ces pratiques, on va dire, liées à l'amour libre. Quelques-unes vont être choquées et vont vouloir défendre la famille traditionnelle, et quelque part, même certaines vont s'écarter du groupe. Par contre, d'autres femmes vont accepter de mettre en conformité leurs actes et leur vie privée. Je pense par exemple à Pauline Roland, qui acceptera d'avoir des enfants hors mariage, qu'elle élèvera dans un premier temps seule, puis de vivre en union libre, pour que justement cette révolution des mentalités, à travers une forme de révolution des mœurs, soit rendue visible dans la société.
Michel Rieu-Sarcey, peut-être un mot sur tout cela, et nous allons parler à la fois de la femme libre et des représentations du féminin par les Saint-Simoniens, avec Paola Ferruta, dont c'est l'objet de recherche. Mais je vous laisse commenter ce qui vient d'être dit, Michel Rieu-Sarcey.
Oui, c'est toujours un peu difficile et l'ensemble du travail, c'est toujours un travail collectif. Par exemple, il nous manque à l'heure actuelle le travail de Michel Bellet qui va publier Le Producteur. C'est le journal qui est publié tout de suite après la mort de Saint-Simon. Et on va trouver à la fois les Saint-Simoniens comme Rodrigue, mais aussi des anciens Carbonari comme Bazar. Et donc, dans ces gens-là, il y a les épouses de Claire oui. Bazar, et ils ont une autre position et un autre point de vue, à la fois plus ouvert, mais en même temps, il y a toujours cette tradition, bien entendu, qui subsiste, le rôle de l'homme. Et lorsqu'ils se sont réfugiés après les scissions multiples, que ce soit Rodrigue qui part, scission avec Bazar, il y a ce retrait nécessaire pour Enfantin et les autres, pour tenter de réfléchir sur ce qui se passe. Ils vont réfléchir ensemble et seuls, et c'est là que, en quelque sorte, le devenir du saint-simonisme va se dessiner, avec les différentes orientations des uns et des autres, les uns du côté des industries, de l'autre du côté de l'éducation, d'autres qui vont aussi prendre fait et cause du côté du colonialisme, de manière extrêmement spécifique, puisqu'ils vont être très attentifs, comme Ismaël Urbain, sur ce qui se passe en Algérie. Ismaël Urbain va se convertir à l'islam pour être au plus près de la population, d'une certaine manière, et il va s'appeler Ismaël Urbain. On doit la connaissance d'Ismaël Urbain à Michel Levallois. Et donc, tous ces éléments-là vont constituer à la fois un collectif et en même temps une piste d'ouverture extraordinaire. Mais n'oublions pas qu'à Ménilmontant, ce retrait, il a deux raisons. À la fois pour tenter de se refaire en quelque sorte, de penser le devenir de l'Église, d'imaginer l'appel à la femme et à la mère en quelque sorte, équivalent du père. Donc Saint-Simon va faire appel à la mère pour essayer de construire une église spécifique. Barrault va prendre fait et cause aussi pour cette question-là. Bref, il y a tout un aspect extrêmement difficile, mais nous sommes dans une période de crise énorme puisqu'il y a une énorme épidémie de choléra. Donc, le retrait à Ménilmontant, c'est aussi pour se protéger du choléra. Mais il va y avoir toutes sortes de mises en scène publiques pour montrer que les hommes dépendent les uns des autres. Donc l'habit des Saint-Simoniens va être boutonné dans le dos pour faire en sorte que dire et préciser que on ne peut se libérer soi-même, on ne peut s'occuper soi-même qu'avec l'aide des autres, c'est toute l'idée de fraternité qu'ils remettent en place et qu'ils remettent en scène de manière un peu spectaculaire.
Alors, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'il faudrait quand même qu'on les entende, ces Saint-Simoniennes, leur prose, elles fondent donc la femme libre en 1832, tandis que les Saint-Simoniens ont pris la direction de la revue ou du journal Le Globe. Elles fondent donc la femme libre. Écoutez, successivement, un passage, alors c'est Jeanne Victoire, mais vous me direz si on sait qui c'est Jeanne Victoire exactement. Jeanne Victoire, son appel aux femmes dans le premier numéro de La Femme Libre. Ensuite, vous entendrez Jeanne Desroin. Alors là, pour le coup, il s'agit d'une lettre dans la correspondance avec les Saint-Simoniens du Globe. Écoutez.
Lorsque tous les peuples s'agitent au nom de liberté et que le prolétaire réclame son affranchissement, nous, femmes, resterons-nous passives devant ce grand mouvement d'émancipation sociale qui s'opère sous nos yeux? Notre sort est-il tellement heureux que nous n'ayons rien aussi à réclamer? La femme, jusqu'à présent, a été exploitée, tyrannisée. Cette tyrannie, cette exploitation doit cesser. Nous naissons libres comme l'homme, et la moitié du genre humain ne peut être sans injustice asservie à l'autre. Comprenons donc nos droits, comprenons notre puissance. Nous avons la puissance attractive, pouvoir des charmes, arme irrésistible. Sachons l'employer. Le sol tremble sous nos pas. Tout chancelle, tout s'écroule. Toutes les institutions religieuses et politiques ressemblent à de vieux édifices minés par la base. Le saint-simonisme apparaît. L'esclavage de la femme est un privilège odieux fondé sur le droit du plus fort. La femme n'est-elle pas douée de sentiments et d'intelligence aussi bien que l'homme ? N'a-t-elle pas un égal intérêt au bonheur de l'humanité ? N'est-elle pas appelée à concourir au même but ? La femme est l'égale de l'homme. Son affranchissement ne sera pas une concession, mais la reconnaissance d'un droit légitime. Le droit d'héritage est un privilège inique. C'est une forte colonne de l'édifice antique. Il faut la renverser. Il faut reconstruire à neuf l'état social.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Saint-Simon dans notre série de cette semaine. Nous célébrons d'une certaine façon le bicentenaire de sa date de mort en 1825. C'est une œuvre majeure, celle de Saint-Simon, et elle a eu des filiations étonnantes. Car si j'ai bien compris, il n'a pas beaucoup parlé des femmes et nous parlons ce matin pourtant des Saint-Simoniennes qui construisent une vraie pensée de leur émancipation à l'aune de Saint-Simon. Alors ma question est très simple, on vient d'en entendre deux dans des textes très forts. Sophie Delvalet, est-ce qu'avec tout ce qu'elles disent là, Saint-Simon serait d'accord ?
Alors Saint-Simon n'a pas vraiment pris la parole concernant les femmes. Les continuateurs de Saint-Simon lui attribuent sur son lit de mort une phrase qui serait « L'homme et la femme, voilà l'individu social. L'homme et la femme, voilà l'être que Dieu a créé. » Mais par contre, les femmes se positionnent davantage par rapport à la doctrine saint-simonienne, c'est-à-dire aux continuateurs de Saint-Simon, qui peu à peu, eux, ont rendu la question des femmes comme une question centrale au sein du mouvement qu'ils vont articuler avec leur pensée de la rénovation sociale. Et donc finalement, il y a peu de traces quasiment pas de traces de ces questions chez Saint-Simon.
Bon, donc là, vous êtes ferme là-dessus. Il y a vraiment une invention propre aux Saint-Simoniennes. On peut entendre néanmoins dans le propos de Jeanne Victoire dans l'Appel aux femmes, le premier texte qui a été lu, une sorte de référence à la notion Saint-Simonienne de capacité. Voilà. Ça, on peut le dire quand même, Sophie Delvalet. Et au passage, pourriez-vous me préciser qui est Jeanne Victoire, si on le sait ?
Alors, je pense que Jeanne Victoire et Désirée Véré. Alors, le souci, c'est que ces femmes utilisaient souvent des pseudonymes ou des pseudonymes collectifs ou leurs prénoms pour signer leurs articles dans le journal La Femme Libre parce qu'elles voulaient montrer leur volonté de se détacher de la tutelle masculine. Et donc, on a parfois du mal à identifier quelles sont exactement ces femmes qui ont signé dans La Femme Libre. Par contre, ici, dans la mesure où Désirée Véré est la fondatrice du journal, il est fort probable que ce soit elle qui ait signé ce premier article.
Entendu. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers Paola Ferruta à nouveau. Vos travaux suggèrent que, en tout cas, chez les Saint-Simoniens, mais on peut se poser peut-être la question aussi des Saint-Simoniennes, la représentation du féminin est quand même redevable à des grands mythes, peut-être un peu problématiques et pas si émancipateurs que cela, en particulier le mythe du Messie qui serait féminin, de la femme Messie, mais aussi la mère, comme l'a signalé Michel Rios-Arcé. Vous êtes assez critique avec les représentations du féminin de cette époque dans ces cercles ?
D'abord, ce sont des fantasmes masculins, donc voilà, on ne peut pas nier l'évidence. Hein.
Mais, La femme messie, pas trop quand même. Hein.
Oui, voilà, non, je veux dire, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est élaboré avant tout par des hommes, mais après était largement partagé. Donc on part par les négatifs, mais il y a plein d'aspects positifs. Hein. Je pense que cet système binaire qui était élaboré par les Saint-Simoniens et
binaire,
cette vision...
Binaire.
Donc il y avait cette vision d'une unité duale, d'un couple messianique.
Ah.
Donc voilà cette figure donc du rédempteur femme.
Hein. Il y aurait femme-homme, c'est ça?
Oui,
la figure du Messie.
Oui, le Messie était vraiment un Messie dual, hein, inséré dans ces systèmes binaires. Donc, il y avait soit une figure féminine qui était très importante, même vers la fin de 1832-1833, était la figure la plus importante. Mais au départ, il y avait cette représentation d'un messie homme et d'un messie femme ensemble. Donc,
ça,
les dualismes...
C'est pas dans Saint-Simon lui-même, c'est vraiment, ce sont vraiment des productions des Saint-Simoniens?
Oui et non. L'individu social, c'est l'homme et la femme. Et donc, même le Messie, c'est l'homme et la femme.
Oui,
donc, bon, il y a une certaine cohérence, même c'est bon, cette idée de l'individu social, homme et femme, est quelque chose que par une tradition orale du saint-simonisme, comme Sophie vient de le dire. Donc, nous n'avons pas des pièces à l'appui, mais on veut croire aux saint-simoniens. Donc, cette vision du rédempteur femme et cette unité duale du couple messianique a donné vraiment l'inspiration, hein, au mouvement social, au saint-simonisme en tant que mouvement social. Et puis, je pense que chaque saint-simonien a élaboré aussi une vision personnelle du messie féminin. Donc, on a donné vraiment aussi la possibilité de développer une polémique par rapport au pouvoir enfantinien. Si nous parlons, par exemple, de Gustave d'Echtal, qui était un saint-simonien très proche de Prosper Enfantin et lié d'amitié avec les familles Rodrigues, avec les familles Pereire. Et cette possibilité d'écrire sur ce sujet du messie féminin a lui permis de s'émanciper par rapport à sa relation de dépendance psychologique d'Enfantin. Donc, était aussi une prise de position polémique ce qu'on pourrait dire un manifeste juif, parce qu'il voyait cette messie femme en tant que femme juive. Donc, il y a dans les groupes restants aussi des relations psychologiques très compliquées et très conflictuelles. Donc,
Michel Rieux-Sarcey, pendant ce temps, il y a Le Globe, qui est un journal, alors on l'a souvent dit libéral, hein. J'ai souvent entendu dans l'histoire de la presse cette caractérisation. En tout cas, le fait qu'on parle des industriels, qui sont des motifs saint-simoniens, les saint-simoniens, au Globe, continuent à cultiver ces motifs de Saint-Simon. Quelle est l'ambiance? Pourquoi des dames, comme vous le dites, écrivent-elles au Globe? Racontez-nous ces correspondances sur lesquelles vous avez travaillé.
C'est lié à l'intelligence de ces polytechniciens que sont les saint-simoniens. Ils ont la prescience de la médiatisation et donc ils vont distribuer le Globe gratuitement. Et ce Globe est lu dans les collectifs partout en province. C'est la première fois qu'un journal aussi important libéral appartient justement de fait à la totalité de ses lecteurs, puisque l'un va le lire, l'autre va le transmettre, etc. etc.
Et il n'y a que des hommes dedans, c'est ça? Il y a des femmes qui écrivent dedans, je veux dire.
Il y a justement les correspondances.
Ah, c'est les correspondances, elles sont publiées.
Ils vont faire appel à la totalité des saint-simoniens, notamment pour élaborer ce qu'ils appellent leur profession de foi saint-simonienne. Et cette profession de foi va être publiée aussi bien par les hommes que par les femmes. Cette correspondance est extraordinairement importante parce que on peut la lire et on s'aperçoit que les gens écrivent exactement comme ils parlent. Vous avez de très belles lettres bien écrites par des gens lettrés, et puis aussi bien des lettres écrites par des gens qui maîtrisent assez mal le langage.
Mais c'est une sorte de courrier des lecteurs.
C'est un courrier des lecteurs, oui, sur la profession de foi. Nous avons justement travaillé sur ces lettres, y compris avec Antoine Picon, qui sera aussi présent dans cette émission. C'est-à-dire que ces lettres nous donnent à voir ce qu'est la population, on dirait militante aujourd'hui, engagée dans un monde pour tenter d'imaginer une autre société. Mmh. Il faut justement, disent les unes et les autres, les uns et les autres, transformer la société, achever la révolution. Ils sont persuadés que 1830, 1848, c'est l'achèvement de la révolution et des espoirs et des espérances. Il faut penser que pendant cette période, 1830-1834, l'émancipation du peuple et des femmes était à la mode. La totalité des journaux parlait de l'émancipation des femmes comme allant de soi.
Donc ce n'est pas un problème d'écrire au Globe et d'être publié dans le Globe. Quand on est une dame, puisqu'on disait courrier des dames, c'est publié. Donc au fond, l'accusation sous-jacente que nous avons évoquée dans cette émission, qui est que les Saint-Simoniens se comportaient mal avec les femmes, et c'est pourquoi elles ont fait un journal toutes seules et elles ont eu leur propre cercle, elle est à modérer quand même. Ils accueillaient les paroles féminines vives, comme on l'a entendu, dans le Globe.
En tant que chef d'église, d'une certaine manière, en tant que responsable d'un courant totalement novateur, qui veut se substituer à l'Église catholique défaite et qui veut construire une nouvelle Église. Donc, ils ont besoin de la totalité de la population. Mais, tout en servant leur cause, de fait, ils ouvrent une voie absolument extraordinaire. Ils ont ouvert la voie à la liberté, ils ont ouvert la voie à l'impossible, comme dirait Quinet. Comprenez bien ce que ça représente. C'est une ouverture fabuleuse, tellement fabuleuse, qu'il a été nécessaire ensuite d'arrêter tout ça, le procès intenté aux Saint-Simoniens, et tout ce qui a été mis en place, par exemple le livre de Firmin Maillard contre la légende de la femme émancipée, ont fait en sorte de laisser croire que tout ça était une illusion et quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et ça marche.
Je vous laisse conclure, vous êtes à distance, mais bien avec nous, Sophie Delvalet, sur l'ambiance globale du Saint-Simonisme, sur ce qui vous paraît le plus saillant, et notamment du côté des Saint-Simoniennes.
Oui, alors je pense que ce qu'il y a de plus saillant, c'est la modernité des propos de ces femmes qui résonnent encore aujourd'hui parfaitement dans notre société actuelle. Elles ont vraiment pensé l'émancipation des femmes, mais également finalement mise à jour les rapports de pouvoir et de domination qui structuraient la société des années 1830. Et aujourd'hui, les femmes ont acquis la citoyenneté politique, mais c'est bien à nouveau, et je pense par exemple au mouvement MeToo, la place des femmes dans l'ordre social qui est mise en cause, et c'est cette résonance et ces résurgences actuelles d'un processus finalement historique qui a été longtemps resté inaudible, qui ressurgit quelque part. Le 21e siècle renoue avec les exigences de ces pionnières qui ont été tout à fait avant-gardistes.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien ailé en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile ou le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radieuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner? Du rouge à lèvres sur son col, du flageolant dans la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer.
Une chanson de 1966, Ne vous mariez pas les filles. C'est Pauline Julien qui chante cela. Merci beaucoup Michel Rio-Sarcé, Sophie Del Valle et Paola Ferruta. Non seulement les références de vos travaux sont précisées sur notre site, mais il y aura un hommage à toutes les personnes, vous souhaitez vraiment le faire, j'y suis très sensible, Michel Rio-Sarcé, qui font partie des études saint-simoniennes en France. C'est un véritable collectif qui, pour ce bicentenaire, fait beaucoup. Il y a eu un grand colloque en mai. Pierre Musso, qui reviendra dans la série demain, fait paraître aussi chez Fayard une toute nouvelle biographie de Saint-Simon. Merci à tout le monde. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse à la colère. Voici le pourquoi du comment.
Comment agir sur la colère ? Les êtres humains sont diversement passionnés, passionnels et diversement soumis aussi à cette passion des passions, cette passion peut-être par excellence qu'est la colère. Il y a des humains plus ou moins colériques, il y a des humains qui sont plus ou moins sujets à cette folie furieuse mais brève, cette fureur brève comme disent les latins qu'est la colère. Il y a des autres humains qui se laissent emporter et qui résistent au jugement que la colère devrait supposer, le sentiment de justice étant au fondement de la colère, et d'autres qui au contraire, sont, comme on dit, rationnels, ne se mettent pas facilement en colère, sauf en des cas extrêmes. Mais quelle que soit notre position individuelle sur la colère, chaque être humain a mesuré sa puissance. La colère est une force majeure. Elle est une force majeure qui résulte de l'importance des relations humaines dans nos passions. Bien sûr, la colère est d'abord, comme le dit Aristote, l'effet d'un sentiment d'injustice qui pousse à agir contre la personne qui en est la cause. Ainsi, la colère montre l'importance des relations dans la vie humaine. Elle nous pousse aux actions extrêmes, elle peut déclencher des guerres, de telle sorte qu'il est essentiel de pouvoir agir sur la colère. C'est au cœur de la morale et de la politique. Comment maîtriser cette passion qui est au cœur de la vie humaine sans que celle-ci puisse y échapper, puisse la contrôler complètement alors qu'elle le doit et pas seulement dans l'après-coup? Pourquoi me suis-je mis en colère? Pourquoi ai-je tout détruit? Pourquoi ai-je détruit ma vie? Pourquoi ai-je détruit le monde? Il ne faut pas qu'il soit trop tard. Il faut agir en amont. Il faut agir sur les motifs de la colère. Il y a à cet égard trois positions, trois usages. Il y a ceux qui agitent les colères. Le philosophe Alain les a dénoncés dans son livre Mars ou la guerre jugée. Comment les agitateurs des passions mauvaises se servent des passions des autres pour animer des motifs injustes. Le vice fomente la guerre, la vertu combat. On pousse les autres à la haine, on agite une passion noble, le courage, l'honneur, la justice, au nom des pires motifs. Il y a donc ceux qui se servent de vos colères. Il y a aussi les sages de l'Antiquité. Contrairement à Aristote ou à Platon, ils ne sont pas tous d'accord. Sénèque, par exemple, ou les stoïciens, en général, dans les traités sur la colère, disent qu'il faut critiquer toute la colère, se passer des passions, essayer de faire user notre raison et se débarrasser de toute colère, ne jamais se mettre en colère. Spinoza dit en un sens la même chose, ne pas détester, mais comprendre, comprendre les raisons. Et le Christ lui-même, d'une certaine manière, dit « ne te mets pas en colère, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Entre les deux, il y a bien sûr une action sur la colère qui cherche, depuis Platon, à tourner la colère vers les vrais motifs de justice. Car comme le dit Alain lui-même, la colère est aussi le courage. La colère, c'est le cœur, c'est la passion intermédiaire chez Platon, chez qui il y a les passions du ventre, les intérêts vitaux, individuels, la raison, l'universel, et entre les deux, la colère. La question est donc, pour ces philosophe dans cette position en quelque sorte intermédiaire entre les utilisations cyniques de la colère des autres surtout et la position peut-être inatteignable du sage qui maîtrise sa colère. Il y a cet usage rationnel des colères, tourner les colères vers les vraies injustices, démontrer l'injustice à la face du monde, laisser la colère en quelque sorte se justifier et à ce moment-là, en effet, y répondre bien sûr par des institutions et par des actions sages, mais aussi parfois en mobilisant les courages, car il faut parfois cette force de la vertu si elle combat pour la justice.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Nicolas Leroulet. Elle a été préparée en particulier par Anna Felpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet et Axel Dubois. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.